Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC et on va tout de suite démarrer avec l'information du jour. Et cette information, elle est révélée ce matin par Le Parisien et RMC. Une femme a été violée à l'hôpital Cochin à Paris par un homme visé par deux OQTF, deux obligations de quitter le territoire. Un fait divers particulièrement sordide, Rémi.
Ouais, c'était fin octobre. Après avoir passé la soirée dans un bar en bord de Seine, la victime, une jeune femme de 34 ans, est prise d'un malaise devant l'établissement. Elle tombe, sa tête heurte le sol, elle est inerte et la jeune femme est secourue par les pompiers qui la conduisent à l'hôpital Cochin où elle est admise dans un box individuel. Alors qu'elle se trouve dans les vapes, selon son récit, elle est soudainement réveillée par des douleurs. Un homme est en train de la violer avec ses doigts. Ses cris et l'intervention d'un infirmier font fuir l'agresseur qui parvient à quitter l'hôpital en portant avec lui la carte bancaire de la victime. Il sera arrêté une heure plus tard par les policiers de la BAC alors qu'il vient de faire des achats dans une épicerie avec la carte de paiement de la jeune femme. L'enquête révèle que le suspect aurait repérer sa victime dès son malaise devant le bar. D'après des témoins, il rôdait autour de la jeune femme qui était donc inconsciente à terre en la regardant avec insistance. Une heure plus tard, c'est au même endroit que cet homme simule un coma éthylique. Rappelé sur place, les pompiers le prennent en charge, le conduisent également à l'hôpital Cochin. Il est emmené en fauteuil roulant par une infirmière jusqu'à un box dans le même couloir que sa future victime. Laissé seul, c'est à ce moment-là qu'il retrouve la jeune femme et la viole.
C'est absolument terrifiant hein, comme fait divers. Et ce qui interpelle également, Rémi, c'est le profil du suspect.
Ouais, l'homme n'a jamais été condamné par la justice. C'est un homme sans papier qui affirme être jordanien et avoir 22 ans. Mais il est déjà connu de la police sous 13 identités différentes. Après avoir été arrêté plusieurs fois pour vol, recel et usage de drogue, il a également été suspecté de viol sur mineur en Seine-et-Marne en 2020, mais l'affaire a finalement été classée sans suite. Arrivé en France illégalement en 2019, selon ses déclarations, ce jeune homme a déjà fait l'objet de deux ordonnances de quitter le territoire français, dont la dernière remonte au mois de juillet dernier.
Alors la question qu'on se pose aujourd'hui dans Estelle Midi, l'État est-il trop laxiste sur ce dossier des OQTF? Fred Hermel.
C'est terrible, cette histoire est terrible, tout est terrible.
Non mais, rien ne va.
C'est-à-dire que tout, depuis le début, la jeune femme, qui est un mois plus tard, bien entendu, toujours traumatisée, a décidé, et son avocat l'a expliqué, de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre l'hôpital Cochin. Moi, je pense qu'elle devrait porter plainte aussi contre l'État. Parce que le rôle de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Nous sommes des citoyens français, nous payons des impôts, nous confions à des personnes que pour lesquelles nous payons notre sécurité. Et là, il y a rien qui va. C'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on parle de non, mais la justice n'est pas trop laxiste. Non, mais le type suspecté déjà de viol sur mineur.
Il n'a pas été condamné. C'est hallucinant.
C'est hallucinant. Enfin, voilà.
C'est incroyable.
En fait, on ne peut pas le renvoyer parce qu'on ne connaît pas vraiment son identité. C'est différente. 13, tu l'as bien expliqué. 13 identités différentes. C'est-à-dire que les policiers.
Enfin, au moins, tu le gardes en prison.
Mais exactement. Bien sûr. Les policiers sont démunis.
Tu le laisses pas dans la rue.
Parce que ce ne sont pas. Les policiers l'arrêtent. Sauf que c'est la justice en France. Heureusement que ça se passe comme ça dans un pays démocratique. Ce ne sont pas les policiers qui décident de qui va en prison ou pas. Mais derrière, il y a des juges qui décident de le renvoyer dans la rue, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en danger en danger les Français et les Françaises, surtout, avec ce genre d'individus, parce qu'il y a des juges qui sont trop laxistes. Voilà. Donc là, les Français commencent à en avoir vraiment, vraiment marre. Parce qu'après l'histoire de la horrible affaire terrible de la petite Lola, assassinée par une femme qui n'aurait pas dû être sur le territoire français, une nouvelle histoire de quelqu'un qui a commis un viol, c'est-à-dire un crime, crime qui est passible de la cour d'assises et logiquement commis par quelqu'un qui aurait dû, là aussi, deuxième OQTF. Quoi.
Oui, mais OQTF, c'est obligation de quitter le territoire. Il quitte le territoire, mais il va où? On sait pas qui c'est.
Ben oui,
on fait quoi? On va pas le larguer en pleine mer. Tu vois, mais c'est ça le problème aussi, Julien. C'est bien joli si tu sais d'où vient l'homme et que t'as un accord et que tu as un accord avec son pays d'origine, bah tu peux le renvoyer. Mais là, tu le renvoies où? Et qui va en vouloir?
Mais en fait, le truc, il faut pas laisser rentrer n'importe qui. Bah c'est ça le truc.
Ah bah d'accord. Enfin, une fois que t'as dit ça.
Voilà. Non. Parce que si on, il y a une bonne manière de ne pas être empêché de renvoyer des gens chez eux, c'est de pas les faire venir chez nous.
Hop. Alors, je vous arrête. But à Doha, but lors du match Suisse-Cameroun. On va rejoindre tout de suite Arnaud Souk. But pour qui, Arnaud?
L'ouverture du score de la part de la Suisse. 1-0 pour les Suisses après 50 minutes de jeu. Centre à ras de terre de Shaqiri. Et qui pour reprendre le ballon au point de pénalty? L'attaquant de la S-Monaco Monaco, Brel Mbolo, qui a une histoire un petit peu particulière puisque il est natif justement du Cameroun, mais c'est bien avec la Suisse qu'il joue aujourd'hui. Donc 1-0 en faveur de la Suisse. C'est pas payé hein, pour les Camerounais qui avaient largement dominé la première période.
Le match Suisse-Cameroun est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Et on revient sur notre débat dans Estelle Midi. L'État est-il trop laxiste sur les gens frappés d'OQTF? Donc on a parlé de ce fait divers sordide à l'hôpital Cochin, Julien Damon. Et donc qu'est-ce qu'on fait de cet homme qui a violé une femme à l'hôpital, qui avait déjà été non pas condamné, mais en tout cas il avait déjà commis plusieurs faits de délinquance. Il a 13 identités différentes. On en fait quoi?
Alors, dans le cas d'espèce, je serais incapable de dire très précisément ce qu'il faut faire de ce monsieur. En tout cas, sur les OQTF, je trouve que nous sommes dans une période d'impuissance publique, de perte de souveraineté absolument effroyable. Pardon pour les mots forts, mais c'est précisément ce que je ressens. Pour les chiffres à la louche, puisqu'on les a tous entendus ces dernières semaines, en lien avec l'affaire Lola, vous avez entre 100 et 150 000 OQTF qui sont prononcés chaque année. Vous avez un taux d'exécution de 10 à 20%, ça veut dire que...
Taux 10.
Bon bah,
plus 10% en 2019 selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.
Précis. Donc entre 10 et 20, j'étais pas si mauvais que cela. Mais la France est très mauvaise. Et d'ailleurs, oui, ce qui s'observe, c'est que les taux d'exécution sont de plus en plus faibles. Et je trouve que le président Macron fixe un bon objectif qui est de 100% d'OQTF. Quand on parle alors avec les experts et les opérateurs, ils ont tous des bons arguments pour nous dire que c'est très difficile. On prend un cas d'espèce comme celui-ci. On ne sait pas qui est ce monsieur. Bah, si on ne le sait pas et s'il est si dangereux, moi je trouve que sa bonne place au regard de ce qu'il a fait auparavant, c'est bien au chaud ou au froid en prison. Plus généralement, ce que l'on nous rapporte, c'est que les pays n'en voudraient plus de leurs délinquants. Moi, je suis assez radical là-dessus. Je pense qu'il faut conditionner notre aide publique au développement, puisqu'en général, ils viennent ni des États-Unis ni de Suède, à l'accueil, la reprise de leurs affreux. On me rétorque, ah oui, mais c'est impossible, etc. Eh bien, tentons-le véritablement. C'est quand même pas simple que de financer, c'est quand même pas super compliqué que d'arrêter de financer les infrastructures, les aides dans ces pays et que de l'autre côté, ils reprennent leurs malfaiteurs.
Oui, mais enfin, quand tu as un Français qui commet un délit dans un autre pays, il est emprisonné dans l'autre pays.
On le rapatrie en France. Bah non, mais s'il nous le renvoie, on le reprend, nous. Pas avec un drapeau bleu-blanc-rouge pour le féliciter, mais pour le reprendre.
On peut même lui permettre de purger sa peine en France.
Ouais, alors, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que les Français à l'étranger ne sont pas sous le coup d'une OQTF. On est d'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent on raconte n'importe quoi avec ce sigle et on nous dit, ouais, les OQTF, les autres sont beaucoup plus souples, etc. Et bien qu'en France qu'on prononce des OQTF, parce que c'est l'obligation de quitter le territoire français. Et en l'espèce, nous sommes quand même d'une souplesse et d'une tolérance qui n'est pas celle des pays dont proviennent généralement les truands et les criminels.
Mais justement, est-ce que l'État doit mettre plus de moyens, Thierry? Est-ce que ça doit être une priorité de l'État de régler ce problème des OQTF?
Très clairement. L'État ne se... D'abord, l'histoire est effrayante, je rebondis sur ce que dit Fred, et on a une pensée évidemment pour la victime. Ça, fermez la parenthèse. L'État ne se donne pas assez de moyens pour exécuter les OQTF. Un exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, seuls les OQTF qui entraînaient une menace à l'ordre public étaient en voie d'exécution. Donc, dorénavant, les préfets ont pour instruction de faire exécuter toutes les OQTF. Deuxième chose, l'ensemble des OQTF. Deuxième chose, les gens qui sont frappés d'OQTF sont désormais inscrits, là aussi c'est une instruction du ministère de l'Intérieur, au fichier des personnes recherchées. Parce que jusque-là, elles n'étaient pas toutes inscrites au fichier des personnes recherchées, ce qui est un peu aberrant. Troisième chose, on demande aussi aux préfets à ce que les OQTF soient frappés une fois qu'ils ont cette OQTF. Ils sont assignés à résidence. C'est quelque chose qui n'était pas fait avant. C'est-à-dire qu'on ne les obligeait pas à rester dans un endroit précis.
Encore faudrait-il avoir une résidence.
Alors voilà, c'est quand évidemment il y a une résidence. Mais au-delà de ça, il faut aussi augmenter le nombre de places en centre de rétention parce que c'est un endroit où on peut mettre les gens frappés d'OQTF en attendant que
créer d'autres centres de rétention. Parce que manifestement,
Il n'y a que 1700 places. Donc, de toute façon, il y en a
1500. Il y a 1700 places. Vous voyez bien qu'il y a un problème.
1005. Et on prévoit d'en créer à 1007 d'ici 2024, je crois, et 3000 à terme. Dans des conditions dignes, évidemment, ce qui n'est pas forcément. Après, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, évidemment, cet homme mérite d'être en prison. Mais une fois qu'il a purgé sa peine de prison parce qu'il ne va pas prendre perpète,
Qu'est-ce qu'on en fait
pour tout ce qu'il a fait, il peut prendre quand même une certaine,
il prendra cher.
Une certaine somme d'années là.
Non mais il prendra cher. Mais une fois qu'il a purgé sa peine, on en fait quoi? Et comme vous le disiez très justement, Estelle, vers quel pays on l'envoie, puisqu'on ne sait pas exactement de quelle nationalité il a. Enfin, dernière chose, et vous l'avez rappelé très justement, le dernier rouage de l'OQTF, c'est qu'il faut que le pays d'origine accepte. Mais et là, c'est un jeu diplomatique, c'est une pression diplomatique. Mais comme tu l'as dit, il faut contingenter l'aide, mais en tout cas, il faut être plus ferme.
Et les visas aussi.
Dernière chose,
la première décision qui avait été prise, c'était de réduire le nombre de visas pour un pays donné quand ils ne voulaient pas reprendre leur délinquance.
Dernière chose que je voulais dire, et c'est dommage ce que révèle cette histoire, c'est que l'hôpital, comme l'école, comme la mairie, n'est plus un sanctuaire. Il fut une époque où, quand on rentrait dans l'hôpital, c'était un sanctuaire où on était soigné. L'école, c'était un sanctuaire où on apprenait. La mairie, c'était un sanctuaire qui était la maison des administrés et des citoyens. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et c'est
et
un symptôme.
Protégé.
Et c'est un symptôme, je trouve.
On était sain et sauf, a priori, quand tu es allé à l'école. Aujourd'hui, l'école est dangereuse. Aujourd'hui,
enfin, n'exagérez pas, l'école n'est pas dangereuse, vous ne pouvez pas dire ça.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de lycées devant lesquels il y a un vigile. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de vigile, il y avait un surveillant qui regardait les carnets de correspondance.
Mais vous vous rendez compte, l'école est dangereuse. Mais c'est pas le premier mot qui vient quand on parle de l'école.
Mais Estelle, plus qu'avant.
Oh, elle est plus dangereuse. Estelle,
je vois des gamins qui sont frappés à la sortie. Mais oui, mais c'est pas.
Estelle, je vais vous donner un exemple pour parler de l'hôpital et pas du lycée. Moi, j'habite pas très loin de Mantes-la-Jolie. Les urgences de Mantes-la-Jolie, il y a un vigile.
Oui.
Quand vous allez à Pôle emploi aujourd'hui, il y a une étiquette qui dit attention, toute agression verbale ou physique à un agent sera condamnée. Oui, donc c'est quand même grave.
Mais d'habitude, les agressions à l'hôpital, elles sont plus envers les soignants.
Oui, parce qu'on estime que ça va pas assez vite.
Exactement.
Mais c'est terrible.
Ce genre de soins,
on est d'accord qu'à une époque, c'était un sanctuaire où on respectait la moindre personne qui faisait partie de l'hôpital, qu'elle soit la secrétaire qui vous accueille, l'infirmier ou le médecin.
Ou le malade.
Ou le malade, bien sûr.
Mais alors, c'est un problème. Position, pour ce monsieur dont on ne connaît pas l'identité, là, il pourrait rester en prison jusqu'à ce qu'il nous donne sa bonne identité.
C'est super, parce que c'est nous qui payons.
Très compliqué juridiquement. De toute manière, c'est nous qui payons tant qu'il n'est pas sorti du territoire.
Très compliqué juridiquement.
Mais c'est pas possible, Julien.
Juridiquement, ce n'est pas possible pour le moment. On peut tout à fait légiférer afin d'obliger les gens à nous donner l'identité qui leur permettra à la fois de sortir de prison, en l'espèce, et en même temps de sortir du territoire. Sauf s'ils aspirent à rester ad vitam aeternam en prison. Non, c'est concret, ça.
Oui, c'est concret, mais je ne pense pas que ça marcherait.
On est toujours là en train de dire c'est impossible, le contingentement des visas, le contingentement de l'aide publique au développement, c'est impossible.
Non, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué à tel point que l'impuissance publique fait qu'aujourd'hui on dit oui, c'est compliqué.
On a plus de places de prison déjà, donc en fait on va les réserver mais c'est pas possible.
Mais pourquoi pas tant que
il n'y en a pas assez de place.
Mais vous avez vu le bonhomme, en l'espèce, ce qu'il a fait, il a une place qui lui est destinée là en prison. Il en sortira que lorsqu'il aura purgé sa peine, et dans sa peine, il y aurait l'obligation de nous dire le pays qui est celui dont il est ressortissant.
Sauf qu'il n'a pas sa place en France, Julien Damon.
Ce monsieur n'a pas sa place en France.
Il n'est pas français, c'est un délinquant.
De tout ce qu'on dit, on dit donc qu'on ne fait rien. Non, il va en tôle, jusqu'à ce qu'il puisse sortir, non pas sur la
route française,
mais sur le territoire dont il provient.
C'est le principe de toute façon, à partir du moment où vous êtes étranger, en situation régulière ou pas, et vous commettez un délit ou un crime en France, vous purgez votre peine. Vous êtes condamné par un tribunal français, vous purgez votre peine en France, et ensuite, si le tribunal le décide, vous êtes expulsé.
Ah oui.
On est avec Jean qui nous appelle au 32-16 du Tarn-et-Garonne et qui est fonctionnaire de police. Bonjour Jean.
Bonjour.
Et vous justement, Jean, vous travaillez dans un CRA, un centre de rétention administrative. Jean, est-ce que justement vous voyez beaucoup de gens passer des OQTF qui dont on ne connaît absolument pas la provenance et qui restent là pendant longtemps?
Moi, de toute façon, c'est pas tellement le problème de savoir d'où ils viennent ou pas.
Pour les renvoyer, si, quand même.
Ah bah, même si vous les renvoyez, vous avez un laissez-passer. Si le commandant de bord de l'avion refuse de prendre la personne parce qu'elle est trop agitée, c'est demi-tour, il retourne au CRA.
Ah oui. Ah oui. Ah, il voulait dire que, d'accord, si la personne pose un problème dans l'avion, elle est renvoyée en France.
Parce que elle ne quitte pas la France, puisque le commandant de bord, pour la sécurité de ses passagers, refuse de prendre cette personne. Voilà.
Mais quand la personne repart dans son pays, elle n'est pas accompagnée par un policier, par exemple. J'imagine qu'elle ne repart pas comme ça en touriste.
Non, non, mais il y a des départs volontaires. Il y a des départs volontaires, donc les gens sont accompagnés jusqu'à l'avion et repartent tranquillement chez eux. Voilà. Il y a des départs accompagnés qui se passent très bien, parce que la personne est un temps récalcitrante, mais une fois dans l'avion, ça se passe très bien. Puis il y en a d'autres, ils refusent de rentrer. Ils font le bazar, et puis donc ils retournent dans le centre. Donc on repropose un départ à l'avion plusieurs fois, voilà. Mais sinon, il y a des gens qui reviennent 15 fois au centre. Parce qu'un refus d'embarquer, au bout d'un certain moment, un refus d'embarquer, c'est pénal. Donc vous retournez en prison.
Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Bon. Mais
de
mais
la
Jean...
prison, de la prison, vous retournez au CRA. Pour commencer.
Mais c'est sans fin, en fait.
Mmh. Bah, c'est ça, c'est sans fin. Mmh. En fin de compte, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas moi. Je pense pas que l'État ait failli. L'État, il applique des règles qui sont là. S'il y a d'autres règles, l'État applique d'autres règles. Mais les règles qui sont là ne permettent pas. Voilà.
Jean, que penseriez-vous de cette nouvelle règle? J'imagine que plein des associations bien pensantes hurleraient, mais ce monsieur-là qui refuse de monter dans l'avion, si on le bâillonne et si on le ficelle de manière à ce qu'il ne bouge pas pendant l'heure exacte, ça n'a rien d'une torture. Au regard du coût de ces opérations, des conséquences graves, le monsieur nous dit simplement je ne veux pas monter dans l'avion.
Même menotté, il peut être très agité.
À ce moment-là, le commandant prend la décision. On se débrouille pour qu'il ne bouge pas pendant tout le voyage.
Non, mais enfin,
c'est dur.
Comme tu ne sais pas où le renvoyer, de toute façon.
S'il est dans l'avion, a priori, on sait où va l'avion.
Là, en l'occurrence, celui-là, tu ne sais pas où aller.
Alors, Jean, qui sait.
Mais il faut un accord aussi avec le pays.
Oui.
Mais s'il est dans l'avion, là, en l'espèce, il a laissé passer. Non, mais attendez,
laissé par les gens.
Laissé d'espèce, c'est. Là, il y a un laissé-passer consulaire, il est dans l'avion et il pousse des cris pour pas qu'on le ramène dans le pays où il ne veut pas retourner. Là, je propose quelque chose de dur, j'en ai parfaitement conscience. Est-ce que Jean pense que c'est réaliste?
Mais ça existe.
Ah bon?
Ça n'existe pas. On peut
très bien. Ça n'existe pas, je propose de le faire.
Non, non, ça existe, on peut entraver une personne, c'est légal, machin, il n'y a aucun problème. Bon, sans acte de torture ou de barbarie, entraver une personne, en plus c'est avec des scratchs, donc vous voyez, il n'y a plus de chaîne ou tout ça comme ça, hein, c'est très...
Oui, on va mettre un boulet.
Mais le problème, c'est que maintenant, si vous êtes dans un avion, que les personnes filment, mettent ça sur les réseaux sociaux, c'est l'image que ça donne après. C'est pas tant ce qu'on fait à la personne. Voilà. Et puis de toute façon, même si la personne retourne dans son pays, bon, à 80%, c'est des personnes du Maghreb, hein. Voilà, sans stigmatiser, je suis moi-même d'origine maghrébine. Voilà. Mais ils reviennent, moi, il y en a plein qui me disent, chef, vous inquiétez pas, je vais aller voir la famille, dans 2 mois, je reviens, je paye mon voyage avec 2 kilos, puis c'est fini.
Oui, oui, mais c'est ça.
Parce avec 2 kilos quoi? Avec 2 kilos de drogue, c'est ça?
Oui, quel soit. Ils font soit la mule, soit ils ont un peu d'argent de côté.
Mais s'ils viennent en France, c'est parce que il y a aussi beaucoup de gens qui sont en situation régulière. Je parle pas de l'homme qui a violé cette femme à l'hôpital Cochin, mais vous avez beaucoup de gens qui sont en situation régulière qui ont fui leur pays parce que leur situation dans leur pays est insoutenable et pour qui la France fait figure d'Eldorado.
Mais ça, c'est le droit d'asile.
Oui, mais on peut pas mettre tout le monde dans le même sac.
À qui on offre le droit d'asile de bien se comporter dans notre pays quand même.
Je pense que beaucoup de gens qui ont le droit d'asile aujourd'hui,
oui,
on sait très bien qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gens qui demandent le droit d'asile ne sont pas menacés dans leur pays. Voilà, simplement.
Non, mais les demandes de droit d'asile pour 80% d'entre elles ne sont pas acceptées par le
pouvoir. Vous confondez les demandes de droit d'asile qui pour le peut-être à 80% ne sont pas acceptées, mais ceux qui ont, qui bénéficient du droit d'asile, la plupart du temps ne posent aucun problème.
Je parle de ceux qui demandent le droit d'asile. Et comme elles demandent le droit d'asile, elles ont droit de rester sur le territoire le temps de la décision. Non,
mais... En gros, les réfugiés ne passent pas de problème, les sans-papiers en posent.
Alors, je voudrais qu'on prenne Eric qui nous appelle de Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Eric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi, Eric. Et vous voulez répondre à cette question. L'État est-il trop laxiste en ce qui concerne les OQTF?
Bah, je pense que l'État est laxiste dans l'application de ses règles, mais il est laxiste dans son ensemble. Moi, aujourd'hui, Estelle, je me lève le matin, je vais travailler, je paye des impôts.
Ouais.
Bon, ça c'est bien, tant mieux, je paye des impôts.
Tous les matins.
Et je vais encore payer combien de temps des impôts pour emprisonner des gens qui n'ont rien à faire dans mon pays, dans notre pays. Donc, en fait, dès que vous les emprisonnez, ça coûte tous les jours, hein, quand même un petit peu.
Exactement.
Bon, on les fait ressortir au bout d'un moment, on n'arrive pas à les expulser, on m'explique. Moi, je suis pas intelligent, mais on m'explique qu'il y a des règles, on peut pas. Ben, c'est marrant parce que quand moi, je fais une connerie, j'en fais pas beaucoup, c'est une connerie au code de la route, là, par contre, on sait très bien appliquer la règle. Là, ça marche très bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de recours, il n'y a pas tout ce qu'on peut. Là, je suis pénalisé tout de suite. Bon, ça c'est pas grave. Donc là, on m'explique, on peut pas les repousser. Moi, j'habite à Vimereux, comme vous l'avez dit, où depuis quasiment 3 ans maintenant, il y a un défilé constant d'hélicoptères jour et nuit. Il y a des hôtels qui sont monopolisés pour s'occuper des migrants.
Oui.
C'est la Grande-Bretagne qui paye.
On va s'en sortir quand de cette histoire? Alors,
mais qu'est-ce que vous voulez faire, Eric?
Certainement. Ben, je sais pas ce qu'il faut faire, mais moi, j'ai pas décidé d'être élu. Moi, vous dites aujourd'hui, Estelle, enfin, vous dites pas vous, on dit, il y a un déficit pour aller voter. Mais on va aller voter pourquoi? Puisque au final, il n'y a rien qui change. Ces gens, il faut les trier. Il faut savoir là-dedans
c'est ce qui se fait.
Qui a vraiment besoin de rester en France et on les met en France. Et moi, il n'y a aucun problème là-dessus.
Mais c'est ce qui se fait, ça, Eric.
Comment?
Le problème, c'est ce qui, le tri, il est fait. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à renvoyer chez eux ceux qui ne font pas partir du. Ah bah si, il est fait. Il y a des gens qui ont des papiers, des gens qui n'ont pas de papiers. Le tri, il est fait comme ça.
Vous voulez que je vous envoie des vidéos?
Non, mais c'est pas le problème de ça.
Mais ceux qui sont dans le Pas-de-Calais, ils essaient d'aller en Angleterre.
Exactement.
Déjà, la première chose. Deuxième chose, si je puis me permettre, dans l'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour l'administration française de vous adresser une amende lorsque vous avez dépassé la limitation sur le code de la route que, effectivement, d'expulser quelqu'un vers son pays d'origine quand on a la chance de le connaître. C'est beaucoup plus complexe comme processus juridique.
Et c'est sûr.
Et ça, c'est factuel.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez beaucoup de migrants.
Et dans le Nord-Pas-de-Calais,
c'est le passage vers l'Angleterre. Et la plupart, ils ne veulent absolument pas rester en France.
Mais évidemment.
Ils ne veulent pas rester chez nous. Ils veulent aller en Angleterre.
C'est la Grande-Bretagne qui paie.
Sauf que Vimereux, c'est à côté de Boulogne, Calais et tout ça. Pour les gens qui habitent, c'est l'or tous les jours. Enfin voilà, faut voir.
Oui, si ça, on est d'accord.
Mais en tout cas, ces migrants-là, ils ne veulent pas rester en France.
Mais oui, mais après, on ne pense jamais aux gens. Monsieur,
mais bien sûr qu'on y pense.
Travaille toute une maison qui n'a plus aucune valeur à cause de la présence de migrants tout autour. Donc voilà. Et à un moment, les gens vont commencer à s'énerver. Hein.
Ouais, mais c'est déjà le cas. Ah de toute façon, encore une fois, ces migrants, l'Angleterre n'en veut pas non plus. Donc, il y a un moment.
Eh bien, il y a un truc très simple.
Ah, d'accord.
Ben, à un moment, il va falloir vraiment revoir notre politique migratoire et qu'on arrête d'accueillir toute la misère du monde.
Ça, c'est possible, mais aujourd'hui, ils sont 150 000 sur le territoire
qu'est-ce
français.
Qu'est-ce qu'on fait donc, de 150 000 déjà là.
Non, mais déjà, il y a un truc. Si tu fermes les frontières, déjà,
mais il y a des états
membres qui ne peuvent pas fermer les frontières.
On sort de l'Europe.
C'est l'Europe.
Ou alors avoir une Europe un peu moins laxiste à ce niveau-là. Mais c'est pas du tout le cas, parce qu'on a une Europe aujourd'hui dirigée par des fonctionnaires immigrationnistes.
C'est la réalité. On va dire ça aux Italiens.
Et c'est la fin. Attends, mais pourquoi elle est arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni? Pourquoi?
Pas que.
À cause de ça en majorité. Bon,
elle va pas faire mieux.
Dernier mot, mais rapide.
Oui, c'est tout. Un tout petit chose sur les chiffres. Estelle, vous venez de dire qu'il y a 150 000 personnes. En fait, il y en a beaucoup plus. Pourquoi? Il y a 150 000 OQTF par an, mais il y a au moins 300 à 400 000 personnes sans papier.
Tout à fait. Et ces OQTF, c'est celles qu'on retrouve.
Voilà. Qui sont prononcées à l'encontre de certains sans papier.
On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. L'État est-il trop laxiste concernant les OQTF? Et je crois que c'est un record dans l'émission, Rémi.
Quasiment, ouais. Je pense, effectivement, que c'est possible que ce soit un record. C'est un oui massif. 96% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux disent oui à la question.
Oui, là, on n'est pas du tout à la marge d'erreur.